Les années noires sous l'occupation allemande, un récit détaillé, un témoignage poignant, une interview, Albert Agnel.
Alors il m'a dit « You are free ». Je me suis levé, tout le monde s'est levé, c'était les survivants. Et on s'est regardé, on était les miraculeux, qui ont sauvé au camp, au ghetto, au combat, à la bataille. Peu après, sont arrivés des camions de la Croix-Rouge américaine, de l'armée américaine, avec des gens de Joint, Jewish Organization, pour aider les survivants, et d'autres. Ils nous ont dit « Voilà, on va vous soigner, il y a des médecins avec nous, on va vous donner à manger, il y a des cuisines militaires ». Vous allez être dirigé vers un village allemand qui se trouve tout près de Farsleben, dans le faubourg, qui s'appelle lui Hillersleben. Et qu'est-ce qu'il y a à Hillersleben? Ben, c'est une petite ville allemande entièrement évacuée par les Allemands. Il n'y a plus un Allemand. Pourquoi? Parce que c'est toutes des maisons que l'État allemand, le Reich, a mis à disposition des officiers allemands blessés au combat. Et toutes leurs familles pouvaient avoir cette espèce de petite villa standard, entourée de petits jardinets. C'est très joli, mais il n'y a personne. Parce que tous ces gens-là sont compromis dans le Parti National Socialiste. Et ils ont énormément peur des Russes. Ils avaient raison d'avoir peur des Russes. Ils ont tous foutu le camp, parce que les Russes sont juste à la limite du village. Au bout de la route du village, c'est la zone russe, jusque-là. C'est parce qu'il y avait les accords de Yalta, jusque où vont aller les Russes. Et c'est là, c'est sous l'Elbe, sous le fleuve d'Elbe, c'est là, c'est la limite. Alors, ils ont dit, ces villages sont libres, on va vous conduire là-bas avec les camions de l'armée, et que chaque famille, qu'il y a des regroupements de gens, occupez le village, s'il y a des portes qui sont fermées, cassez-les, s'il y a des fenêtres que vous ne pouvez pas ouvrir, cassez-les, le village est à vous, et on va vous ravitailler là-bas en attendant de prendre une décision, c'est que vous allez devenir, parce qu'on ne savait pas. Rentrer en Pologne, c'était encore la guerre, c'était encore des combats à gauche à droite, les gens ne savaient pas quoi faire. J'ai retrouvé ma mère et ma sœur. Nous avons intégré un appartement vide, très beau appartement allemand, où il y avait encore des assiettes sous la table, et un peu de manger dans les frigos, et les vélos dans les garages, et même une voiture, une splendide voiture dans les garages, mais il n'y avait pas d'essence. Ces voitures, les ont abandonnées, les Allemands, parce que d'essence, on en avait depuis des mois ou longtemps, il n'y en avait plus. Les civils ne pouvaient pas avoir d'essence, et même les militaires qui étaient blessés et tout ne pouvaient pas en avoir. Ces gens ont abandonné tout, ils sont enfouis. Je sais où, on ne les a jamais vus. J'ai ici à la maison quelques fourchettes et quelques cuillères que j'ai ramenées là-bas avec le nom de la famille et la date où ils sont mariés. C'est gravé sur la fourchette. Pourquoi j'ai pris ça, je vous le dirai plus tard. Nous sommes allés là-bas, et là-bas, on a été ravitaillés tous les jours par l'armée américaine. D'abord, des médecins sont venus. Chacun a passé des contrôles médicaux. J'avais des vers à l'intérieur de moi, j'avais des furoncles, des blessures, mais je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade. Une fois que j'ai bien mangé et que j'ai bien bu, ben je me suis retrouvé, on peut dire, en bonne santé. Nous avons habité là-bas. Tous les jours, on pouvait passer à la cuisine militaire qui était sur la place du village, où on donnait à ma profusion des cornets de bœuf, des soupes militaires, de tous les produits, la ration K, la ration que les soldats américains avaient, des chocolats, dans la ration des vêtements civils. Je ne sais pas d'où ils venaient, de quelque part, d'un dépôt. Et on a trouvé dans les armoires, des appartements, il y avait des vêtements, souvent des uniformes, mais pas seulement. Il y avait des familles, il y avait des vêtements de femmes, d'enfants. On est resté là-bas pendant plusieurs mois. Vers la fin, après plusieurs mois, le commandant américain de ce village, parce qu'il y avait un commandement américain qui s'occupait de nous, très bien d'ailleurs, nous a dit, voilà, maintenant la guerre est tout à fait finie, les combats ont pris fin, vous êtes un peu en meilleur état, chacun peut retourner dans son pays, dans sa maison. Nous allons à la gare de Magdebourg organiser les rapatriements des personnes qui veulent rentrer. Il y aura des trains pour la Pologne, pour la Tchéquie, pour la Roumanie, pour la Hongrie. Et il y aura un train aussi pour la Palestine. c'est qu'ils veulent aller en Palestine. Quand ma mère a entendu qu'on parlait en Palestine, elle n'a pas hésité. Elle a dit, en Pologne, j'ai plus personne. Nous savions déjà que mon père était décédé. Toute la famille de mon père, je vous disais qu'il avait une fratrie de 10 frères et sœurs qui étaient tous mariés, qui avaient tous 2, 3 ou plus enfants, donc ça faisait une grande tribu. Il n'y a pas un survivant sur la terre. Personne n'a survécu. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, personne. Les seuls de la famille Gutmann qui sont restés, c'est ma mère, ma sœur et moi, sur une fratrie, sur une famille de plusieurs centaines de personnes. Il n'y a personne. Il y a une photo d'un d'entre eux qui est là, je vais vous le montrer, tout à fait par hasard, mais il n'y a plus personne. Ma mère a donc dit, on va aller en Palestine. Et pourquoi en Palestine? D'abord parce que ma mère, elle avait 5 frères et sœurs qui sont tous tombés pendant la guerre, à l'exception d'un frère, le frère de l'oncle Yitzhak, qui lui était étudiant en Allemagne en 1933, marié ou en vivant avec une jeune femme allemande, non juive. Il était étudiant en Allemagne. Et quand Hitler est venu au pouvoir, il a eu cette idée, il a compris que les juifs n'ont pas d'avenir en Allemagne. Et il a décidé de partir de ne sais pas quelle façon clandestine en Palestine de l'époque, de 1933, avec sa femme allemande, Tante Lee, qui s'appelle Lee, qui a vécu toute sa vie en Israël, en Palestine d'abord, puis en Israël, et qui est décédée et qui est enterrée là-bas, et personne ne savait qu'elle était allemande. Elle a toujours dit qu'elle était juive. En 1933, personne n'a posé des questions. Voilà un juif qui arrive d'Allemagne avec une femme. C'était bon. Elle s'est établie là-bas. Elle avait un passeport israélien quand elle parlait l'hébreu. Elle avait quitté sa vie en Allemagne. Elle a fait un grand héritage beaucoup plus tard. Mais ça, je vous raconterai aussi après. Mais voilà, donc nous savions. Cet oncle, je ne l'avais jamais vu. Puisque moi, je suis né en 1933. Et lui, il est parti en 1933. Donc, moi, je ne l'avais jamais vu. Mais on m'a toujours dit que c'est un oncle, oncle Yitzhak, qui s'appelle comme ça, qui vit en Israël, en Palestine. Alors ma mère a dit, on va aller en Palestine. Autre chose, autre raison. Et ça, c'est marqué même sur mes papiers. En 1943, quand nous sommes arrivés en camp, je vous dis, il y a 3000 personnes. Arrivé, c'est le commando de 3000 personnes. Il commençait à y avoir trop de gens dans les camps de Bergen-Belsen. Ils étaient surchargés. Les Allemands ont décidé de se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Et ils ont fait ça de façon suivante. Ils ont, à l'appel-place, à la place d'appel, ils ont dit un jour, tous ces commandos, parce qu'on était commando de 3000 personnes, tous ces commandos, tous ces groupes, Gruppen, comme ils appelaient ça, va être échangé contre des prisonniers allemands en Afrique, qui sont de l'armée de Rommel, qui étaient prisonniers en Afrique. Nous, on ne savait rien de la guerre en Afrique. On ne connaissait pas même le nom de Rommel. Nous ne nous étions pas connus, on savait. Mais on a quand même entendu qu'on va être échangé. Bientôt, on va vous appeler et vous devez déclarer où vous voulez aller. Il y a 3 possibilités. Vous pouvez aller en Amérique du Sud. Je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud qui était naître, Venezuela ou Nicaragua. Je ne me rappelle plus quel pays. Soit aller en Suisse, soit aller en Palestine. Les gens ont vite fait le compte, on s'est dit comme ça. En Suisse, ce n'est pas possible, parce que dans les camps, il y avait des gens qui ont été en Suisse et qui ont été renvoyés par les Suisses, remis aux Allemands, et qui sont retrouvés dans les camps. C'est dans les Suisses, ne vont pas nous accepter. En Palestine, c'est le pays où il y a beaucoup de Juifs, les Allemands ne vont pas nous envoyer là. La grande majorité des gens, l'énorme majorité, plus de 2000 sur 3000, ce sont même plus, pratiquement tout le monde, s'est inscrit, parce qu'il fallait bien s'inscrire quelque part, qu'il fallait en Amérique du Sud. Ils se sont dit Amérique du Sud, avec les Pampas et tout ça, c'est un grand continent, ils ne sont pas tous en guerre avec l'Allemagne, il y a des pays qui sont nets, peut-être qu'il y a une chance sur 1000 qu'on va les envoyer en Amérique du Sud. Ma mère a dit non. Ma mère nous a fait un signe, elle dit, tu vas t'inscrire pour la Palestine. S'il y a une chance sur 1000 même que ça a changé, qu'est-ce que tu feras en Amérique du Sud, tout seul, tu ne connais personne. En Suisse, on ne va pas t'accepter. Va en Palestine, tu vas sonner chez ton oncle, il va te recevoir. Tu auras quelqu'un pour s'occuper de toi. Je me suis donc inscrit, ma mère et ma sœur aussi, chacun de son côté, pour la Palestine.